Mais qu'est-ce que je vois? Peut-être un message? Faites vos éclairs vous-même. Nous, on aimerait aller à la plage. Quel tout fait!
Les bourgeois n'ont jamais rien inventé!
Les bourgeois!
Attends. Je voudrais te demander un truc. C'est pas très normal.
On s'en fout d'être normal.
Does it make you remember anything?
Mais j'ai bien compris, hein. Bien compris. Tu me prends et tu me jettes comme un vieux mouchoir.
Pourquoi vous n'avez pas donné plus d'explications?
Celui qui parle vraiment sent s'imprimer sur sa langue le goût aigu du piment et la douceur de la mangue.
C'est bon, tu l'as assez. Range ton cahier.
À rebrousse-poil, quelques pas d'exploration documentaire. Cerveau augmenté, homme diminué, conférence de Miguel Benassayag, mars 2017.
Dans les recherches dans laquelle convergent la biologie, les mathématiques, l'épistémologie et en partie l'anthropologie, en partie, sur un axe de recherche qui est la singularité du vivant. D'un point de vue comme ça, du sens commun, comme ça on pourrait dire, mais c'est particulier, c'est un peu spécial de s'intéresser à la singularité du vivant, car en principe, pour tout le monde, ça irait de soi qu'on sait distinguer le vivant, un chat, un chien, n'est-ce pas, d'une machine, n'est-ce pas? Or, le problème est que depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, dans la recherche biologique et aussi articulée avec la recherche en informatique, depuis une bonne vingtaine d'années, la doxa dominante, c'est-à-dire les points de vue dominants et acceptés par la communauté scientifique internationale, est justement de qu'il n'y a aucune singularité propre au vivant. Pour vous dire un tout petit peu, c'est qu'un grand mathématicien épistémologue français, Jean Petitot, dit qu'en biologie actuellement, ça ne serait pas sérieux de parler d'une particularité, une singularité exclusive du vivant, que le vivant n'est pas autre chose que des parties non élémentaires agencées entre elles. Non, c'est un tout petit peu les fruits des travaux articulés de la biologie moléculaire et de l'informatique, n'est-ce pas? Alors donc, Jean Petitot va dire, de la même façon qu'il n'y a aucune particularité, aucune singularité du vivant, donc on voit là revenir le vieux démon de la philosophie occidentale, très notamment cartésienne, Descartes, qui va décrire l'animal comme une machine. Alors aujourd'hui, la biologie moléculaire, articulée avec les mondes digital de l'informatique, ne dit pas autre chose. Il va dire, et c'est ça la phrase l'hypothèse de Petitot, il va dire finalement, aujourd'hui, la science est en capacité de comprendre de façon purement mécanique des phénomènes complexes, certes, mais qui n'ont aucune singularité dans le sens de qu'il y ait un saut, vous voyez, qu'il y ait quelque chose d'irréductible aux parties qui les composent. Et ce que Petitot va ajouter, c'est que les concepts, la subjectivité, tout ce qu'on croyait si particulier, eh bien, aujourd'hui, nous pouvons tout les modéliser et les reproduire ailleurs en l'augmentant, en les modifiant. Et je pense qu'il faut contextualiser notre problématique qui est cette domination totale dans le monde de la recherche scientifique et dans le monde de la technique appliquée, hein, dans lesquelles on dit, bon, mais finalement, nous pouvons prendre une plante, un chien, les cerveaux d'un humain, on peut les modéliser entièrement et les reproduire ailleurs. Vous voyez, les génomes humains, ou les génomes quels qu'ils soient, hein, je peux les modéliser, hein, donc recueillir toute l'information qu'il y a dedans, les mettre sur un disque dur ou sur un papier et les reproduire ailleurs en les modifiant ou, comme on dit d'autres, en l'augmentant. S'il n'y a pas de singularité du vivant, effectivement, ça veut dire que l'animal est une machine, que cette machine, certes complexe, je peux la comprendre, et que nous-mêmes, en tant qu'animaux, effectivement, il n'y a aucune raison pour ne pas modifier ce qui nous compose dans notre animalité machine. Voyez. Alors, si on avance un pas de plus, effectivement, les projets de la recherche actuelle, et on peut les nommer comme les projets de la production d'un monde, pour dire comme ça, post-organique. Voyez, c'est-à-dire un monde dans lequel ce qui est structuré par la nature d'une certaine façon pourra être structuré tout à fait d'une façon différente dans une hybridation avec des nanos, de la robotique, de l'intelligence artificielle, voyez, NBIC, non, c'est les nanos, les bio, l'intelligence et le cognitivisme, non. Des chercheurs comme Laurent Alexandre, vous savez, votre compatriote qui est médecin et biologiste, et lui, par exemple, il a écrit un bouquin qui s'appelle directement, pour dire les choses clairement, « La mort de la mort ». Vous voyez, peut-être parmi vous, il y en a qui ont entendu parler. L'idée et la tendance aujourd'hui de la recherche est une tendance et une hypothèse forte qui dit « tout est possible ». C'est-à-dire que dorénavant, on peut tout modifier. Alors vous comprenez quand même que dans la tendance dominante aujourd'hui dans la recherche scientifique, les OGM ne sont qu'un détail par rapport à l'idée quand même très claire de qu'on va modifier l'humain, n'est-ce pas? Et j'ai vu des dizaines et des dizaines de thèses de doctorat des biologistes ou des informaticiens qui énoncent comme ça, comme si de rien n'était, non? On va corriger les erreurs de la nature. Alors, là-dedans, d'un point de vue médical, il faut faire une précision. Nous ne sommes pas là dans une recherche génétique, par exemple, qui vise à la réparation, voyez, c'est-à-dire, on est passé dans une recherche de l'augmentation et transformation, vous comprenez? Et il faut bien marquer la différence. Systématiquement, c'est que les tenants du transhumanisme, etc., ils disent, mais Miguel, il est bioconservateur, voilà. Alors donc, je n'aurais pas vieilli pour rien, je serais devenu, au moins pour une fois dans ma vie, conservateur en quelque chose. Alors donc, ça c'est le terrain général. Ce que je vais exposer un peu rapidement, c'est ma recherche concrète par rapport au cerveau, hein, parce qu'effectivement, depuis un certain temps, un autre de vos compatriotes, Jean-Pierre Changeux, il a été très influent dans l'idéologie de la recherche en informatique, quand il a eu la bonne idée de publier son fameux livre, très intéressant par ailleurs, mais avec une hypothèse lourde, qui est l'homme neuronal. Vous voyez, il a publié il y a une quarantaine d'années déjà. Alors l'homme neuronal, ça veut dire que finalement, le cerveau n'est pas autre chose qu'un ordinateur. Et donc, je peux modifier le cerveau, augmenter le cerveau, etc. Alors comme moi, je travaille depuis très longtemps en neurophysiologie, je ne peux pas ne pas m'intéresser à tout ce que l'imagerie médicale nous permet de voir du cerveau, voyez. Aujourd'hui, et depuis un bon bout de temps, on peut cartographier le cerveau à tel point qu'on peut savoir quel neurone va se déclencher quand je vais penser le numéro 5 et le numéro 6, quel circuit neuronal va se déclencher quand je suis dans une émotion amoureuse ou de tristesse. Et quel circuit neuronal du cerveau se déclenche et comment, de quelle façon ça circule quand je suis en train de faire une sorte de pensée complexe, n'est-ce pas? Alors, dans la recherche, souvent c'est ignoré, peut-être pas, je ne sais pas ici, mais souvent c'est ignoré à quel point on est arrivé. Moi, j'ai travaillé pendant longtemps dans l'hybridation cerveau-machine avec des machines qui rentrent dans le cerveau, qu'on appelle des hybridations intrusives. Alors j'ai travaillé beaucoup dans l'implant cochléaire, voyez, c'est-à-dire pour faire entendre les sourds. Mais après, j'ai commencé à travailler avec d'autres. Ma recherche, c'était d'essayer de voir comment le cerveau est modifié simplement par la utilisation quotidienne des machines digitales. Bon, avant de venir à ça, pour que vous fassiez une idée de où on arrive avec la digitalisation et la robotique, ça fait déjà 15 ans que la firme Hitachi, japonaise, non, il a construit un robot qui, par une interface cerveau-machine non intrusive, hein, c'est-à-dire qu'on met un capteur sur l'écran, sans entrer, quoi. Il peut capter, par exemple, quand vous imaginez que vous allez prendre cette bouteille, voyez. Alors, eux, ils disent, ils captent la pensée. À vrai dire, ce qu'ils captent, ce sont des formes qui vont plutôt vers des images. Mais bon, peu importe. Alors, vous imaginez des capteurs. Il peut capter quand vous voulez prendre cette bouteille. Donc, vous imaginez ces gestes-là. Et le robot prend la bouteille. Vous comprenez? Alors, bon, ça s'apprêtait à des délires du genre « Oulala, ils vont lire la pensée, je sais pas quoi ». Chose qu'il faut tout de suite se rassurer parce qu'il y a tellement peu de gens qui pensent qu'il y aurait peu à lire, voyez. Mais de toute façon, voyez, c'est quand même pas rien, voyez. C'est quand même pas rien cette cartographie, cette possibilité d'agir. Bon. Alors, tout ceci, bien entendu, avance dans le sens de que finalement, l'homme, les vivants, dans les cas qui m'intéressent, le cerveau est une machine archi-complexe, mais une machine que nous pouvons connaître absolument. Alors, mon travail là, concret de recherche de ces dernières années avec des machines non intrusives, non, alors les portables, les machines à calculer, l'ordinateur, les GPS, voilà, bon. Par rapport à ce type de machines, ce qu'il faut comprendre pour voir l'évolution actuelle du vivant et du cerveau, hein, du cerveau, est que les cerveaux fonctionnent comme ça. Ils fonctionnent en déléguant des fonctions. Ça veut dire quoi, déléguer une fonction? Ça veut dire que, par exemple, dans l'évolution des espèces, souvent, une espèce accomplissait une tâche qui jusque-là était accomplie, mettons, par l'homme. Alors, le cerveau de l'homme, il ne remplit plus cette tâche, vous comprenez? Parce que les chiens ou un autre animal va la remplir, cette tâche-là. Donc, les cerveaux, un cerveau a fonctionné toujours, les cerveaux fonctionnent toujours comme ça, en déléguant des fonctions, vous voyez. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui s'occupe, moi je ne les fais plus, et en recyclant les parties du cerveau, les zones du cerveau, qui du coup restent libérées pour d'autres choses. Ça, c'est tout à fait normal. Alors, qu'est-ce que j'ai travaillé comme recherche? Des recherches très simples. D'abord parce que je n'avais pas de sous, parce que quand vous vous présentez en train de dire « je vais montrer les limitations », vous comprenez, c'est beaucoup moins sexy que quand vous dites « je vais montrer l'augmentation », vous voyez. Mais bon, alors par exemple, des recherches qui ont été faites par des équipes qui comparaient un groupe de chauffeurs de taxi à Londres et un groupe de chauffeurs de taxi à Paris. Pourquoi Londres et Paris? Parce qu'ils sont deux villes labyrinthiques, vous voyez, que vous ne pouvez pas vous guider par des trucs bien carrés. Les groupes de Londres étaient les groupes témoins, les groupes de Paris étaient un groupe qui commençait à conduire avec des GPS. Bon, pour aller vite, ce que je vous dis, c'est qu'au bout de 3 ans, les groupes parisiens qui conduisaient avec GPS connaissaient des atrophies, des noyaux sous-corticaux, qui s'occupe de cartographier les temps et l'espace. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que la fameuse plasticité cérébrale dit qu'on peut augmenter la quantité des synapses, augmenter les circuits neuronaux à tout âge, mais aussi que ça peut diminuer à tout âge. Vous comprenez? C'est-à-dire que les parallèles entre les neurones et les muscles et celui-là, c'est-à-dire... Effectivement, ça peut augmenter la capacité, ça peut diminuer la capacité. Bon. Alors, il faut bien imaginer que les noyaux sous-corticaux qui s'occupent de cartographier les temps et l'espace ne s'occupent pas juste d'aller de la gare de Lyon jusqu'ici, n'est-ce pas? Ils s'occupent d'avoir une idée de l'espace. La possibilité de cartographier permet, par exemple, une chose assez étonnante, de reconnaître des points de repère dans un espace qu'on ne connaît pas. Vous voyez, parce qu'on comprend des trucs de l'espace qu'on occupe, du temps, de l'espace qu'on occupe, même si on ne connaît pas cet espace et ce temps. Vous comprenez? C'est-à-dire que le cerveau a cette capacité-là. Bon. Donc, si le cerveau, si les noyaux sous-corticaux qui s'occupaient de ça jusque-là, chez ces chauffeurs-là, sont atrophiés, c'est pourquoi? Parce qu'il y a une délégation des fonctions, vous voyez? Donc, la machine s'en occupe. Bon. d'autres trucs très simples sur lesquels on a travaillé, parce qu'on voulait quand même travailler sur des trucs simples et qu'ils soient facilement prouvables, vous voyez, constatables. Bon, par exemple, il s'avère que tous les gestes que le corps fait se répercutent dans l'architecture cérébrale, vous voyez. Alors, quand quelqu'un est en train d'apprendre à jouer le violon ou faire n'importe quoi un peu complexe, effectivement, ça modifie immédiatement l'architecture du cerveau. Non, c'est une des causes pour lesquelles la comparaison cerveau-ordinateur ne fonctionne pas, parce que pour le cerveau, il n'y a pas un software et un hardware. Vous voyez, il n'y a pas une machine et un logiciel. Le cerveau se modifie matériellement au fur et à mesure qu'on apprend des choses. Vous voyez, en tant que la machine, effectivement, non. Vous imaginez une machine qui, si, apprend, que, si on lui donne une information très, très dure et triste, et la machine diminue, vous voyez, en taille, non? Et après, on les met une information très joyeuse, va augmenter, vous voyez? Bon. Alors, le cerveau fonctionne comme ça. Le cerveau, effectivement, tout ce qu'il va apprendre va modifier, les expériences vont modifier anatomiquement le cerveau, pas que physiologiquement. Alors, donc, on a fait quelque chose de très, très simple à faire. On a vu, grâce à l'imagerie médicale, qu'est-ce qui se passe, cérébral, qu'est-ce qui se passe quand un môme, un jeune, apprend à faire une racine carrée ou un logarithme, vous voyez, une fonction mathématique un peu complexe. Vous voyez comment, effectivement, il y a des neurones qui migrent, il y a une architecture cérébrale, pour le dire comme ça, qui se complexifie. Après, quand le môme vieillit, il n'a rien à faire des racines carrées. Mais ce circuit-là sert à une pensée complexe, vous comprenez? Bon. Alors, effectivement, quand j'appuie un bouton pour avoir la réponse, bah, tout bêtement, ce qui se passe, c'est que cette complexification de l'architecture cérébrale bah, ne se fait pas. Oui. Moi, je précise, bien entendu, notre position et ma position n'est pas ni technophobe ni technophile, n'est-ce pas? C'est-à-dire, tout ce que nous pouvons constater aujourd'hui, et c'est ça l'objectif de mon travail en bonne partie, c'est montrer que l'hybridation entre les vivants et la machine, et à l'occasion les cerveaux, est déjà une réalité. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous sommes déjà hybridés par cette hybridation, par délégation des fonctions. Vous comprenez? Alors, effectivement, cette hybridation, elle est fortissime chez les moins de 25 ans, voyez, et plus on va en vieillissant, plus le cerveau, il est structuré déjà de notre mode. Oh, il est déjà assez déstructuré et il s'en fout de l'hybridation. Vous voyez. Mais objectivement, l'idée, c'est non pas de dire « Ah, quelle horreur la machine !» ni « Magnifique la machine !» mais c'est simplement de comprendre quelque chose qui est un tout petit peu contre-intuitif, parce que on pense que l'hybridation, telle comme la science-fiction nous a habitués depuis 60 ans, 70 ans à la pensée, l'hybridation vivant et homme-machine, on l'imagine surtout par des modifications du phénotype, c'est-à-dire de la forme, vous voyez. Et alors donc, voilà, il sort une antenne là, vous voyez, oh, les corps diminuent, on a une grosse tête, vous voyez. Et effectivement, toutes les hybridations qui sont en train de changer des écosystèmes, qui sont en train de changer les cerveaux, qui sont en train de changer les fonctionnements physiologiques, sont des hybridations qui se passent sans changement visible du phénotype. Vous comprenez? C'est-à-dire que ça ne se voit pas. Et on s'adapte tranquillement. Juste pour vous dire une autre recherche qu'on a faite, n'est-ce pas? C'est par rapport à la mémoire. Il s'avère qu'il y a deux groupes de chercheurs, un en Californie, l'autre à Buenos Aires. Moi, pour des raisons d'économie encore, j'ai travaillé avec celui de Buenos Aires, mais j'ai lu les travaux des Californiens, qui disent, nous sommes en capacité aujourd'hui de modifier les contenus de la mémoire, n'est-ce pas? Alors donc, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, les gens souffrent énormément parce qu'ils sont prisonniers de leurs mauvais souvenirs, vous voyez, leur passé les empêche d'avancer, vous voyez. Bon, peu importe les trucs techniques, les groupes de Buenos Aires, comme les groupes californiens, par des biais différents, cherchent comment faire pour éliminer des pans de la mémoire, voire changer des pans entiers de la mémoire. Bon. Alors, arrivé à ces points-là, où je vais en venir, n'est-ce pas? Moi, je vais en venir au fait que, d'une part, l'ignorance de la singularité du vivant est quelque chose de paradoxal. Pourquoi ? Parce qu'on n'a jamais autant connu sur les mécanismes du vivant et on n'a jamais été autant éloigné de la connaissance de la singularité du vivant par rapport à l'inerte, par exemple, voyez, par rapport à la machine. Et effectivement, mettons par exemple dans les cas de la mémoire. Jusqu'à aujourd'hui, un être humain, et même un mammifère supérieur, il est identifié, il est une singularité, il est celui-là et pas un autre, dé par sa mémoire, voyez. C'est-à-dire, qu'est-ce que signifie que, quel type d'être humain sera cet être humain auquel je pourrais effectivement lui changer sa mémoire, voyez. Au nom toujours de la même chose, une augmentation qui va vers la performance, etc., etc. Voyez. Donc, la question qui se pose aujourd'hui pour nous tous est que nous sommes fascinés par les nouveaux possibles de la technique, voyez. Nous sommes fascinés par les nouveaux possibles parce qu'ils sont fascinants. Mais à la fois, pour une question pas innocente du tout, des crédits de recherche, d'orientation de la recherche, etc., il n'y a presque pas de recherche, ou en tous les cas, pas de recherche subventionnée, par rapport aux invariantes propres à la vie et à la culture qu'il ne faut pas chercher à écraser comme si c'était les bruits dans les systèmes. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on considère aujourd'hui que tout ce qui résiste à la modélisation et modification du vivant, c'est les bruits dans les systèmes. Alors, pour finir là-dessus, pour vous donner une idée un peu de quoi il s'agit, hein, Kant, dans l'introduction de la critique de la raison pure, en parlant de Platon, parce qu'effectivement, Platon, c'est lui qui a mis en système ce dont on est en train de parler aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il va dire Platon dans la caverne, non, dans la République, dans l'apologie de la caverne? Il va dire qu'il y a l'esclave qui s'échappe et il voit le vrai monde, vous vous rappelez? Bon. Mais c'est quoi le vrai monde dit par Platon? Ce n'est pas une exégèse. Le vrai monde, c'est le monde des idées par rapport au simulacre. Et c'est quoi les simulacres? Les simulacres sont les corps. Hein, c'est ce qu'il dit Platon. Et c'est ce qu'ils vont répéter toutes les religions monothéistes. Les corps sont les simulacres. Et la vérité est ailleurs. Vous comprenez? La vérité est ailleurs. C'est pourquoi dans toutes les recherches, dans toute la fascination transhumaniste, post-organique, etc., on voit réapparaître cette haine du corps, n'est-ce pas? Cette haine religieuse du corps, dans laquelle on considère que le corps est un simulacre parce qu'il est corruptible. Voyez. Alors, effectivement, il y a une charge métaphysique très forte parce que l'humanité déboussolée qui est la nôtre trouve dans la nouvelle promesse métaphysique de la technologie la possibilité de dire « c'est vrai ». Tout tombe, c'est une apocalypse écologique, c'est un désastre, mais nous, on va s'en sortir vers le haut grâce à cette, non, je ne sais pas comment dire, non, cette transmutation, je ne sais rien, non, cette passage vers l'homme ou la vie augmentée, la vie devenue machine. Hein. C'est les travaux dont vous avez entendu parler. Je modélise le cerveau de Robert. Je les mets sur un disque dur avec des algorithmes capables d'apprendre. Et alors, à un moment donné, Robert, il est là. Vous comprenez, Robert n'est pas là, il est ici. Alors, effectivement, Kant, en critiquant Platon, et c'est Platon qui veut dépasser les corps, dépasser toutes limites, il dit que Platon, il se comporte comme une colombe qui pense qu'elle volerait beaucoup mieux s'il n'y avait pas la résistance de l'air. Vous comprenez? C'est-à-dire, la colombe se dit, merde, l'air résiste. S'il n'y avait pas la résistance de l'air, je pourrais voler beaucoup mieux. D'un point de vue historique et culturel, aujourd'hui, les défis pour notre petite humanité sont celles-là. Comprendre ce que Kant présente comme la différence entre les bornes et les limites. Alors il va dire, les bornes, c'est ce qui borne la puissance d'agir, la puissance des pensées, la puissance... Mais les limites, au contraire, c'est ce qui peuvent changer, les limites peuvent changer, mais c'est ce qui protège la puissance d'agir, c'est ce qui protège la vie. Vous comprenez? Aujourd'hui, notre petite humanité est dans une sorte d'illusion technophile, techno-fiction, etc., mais avec des applications bien réelles. Elle est dans une petite folie qui croit effectivement que si on pouvait écraser la résistance de toutes les invariables organiques propres aux vivants, on pourrait construire un monde magnifique qui n'aurait plus à s'emmerder avec la lourdeur et les limites du corps. Et toute ma recherche est d'essayer de comprendre quelles sont les limites, qui sont des invariantes, qui, loin d'empêcher la puissance du vivant, sont la condition du vivant. Voyez. Alors, effectivement, ceci, je ne les fais pas d'un point de vue transcendant ou religieux, je les fais d'un point de vue de la recherche scientifique concrète, n'est-ce pas? Mais effectivement, quand moi je regarde la pampa, toute la surface immense de tous les centres de l'Argentine, quand je vois les immensités brésiliennes plantées avec des OGM, n'est-ce pas? Vous savez qu'est-ce que vous voyez? Vous prenez un peu de terre, non? Et vous voyez que cette terre-là, elle est morte. Vous savez, dans chaque morceau comme ça de terre, il y a des millions de micro-organismes qui vivent. La terre, c'est ce que mes compatriotes indiens appellent la Pachamama, la mère terre, n'est-ce pas? Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une croyance stupide. La terre, elle est vivante. Alors effectivement, quand je dis prendre les limites comme des bornes, eh bien, une chose, c'est la recherche en agronomie pour essayer d'alimenter la planète, pour essayer de faire des hybridations, etc. Autre chose, c'est effectivement dire l'écosystème, et la Terre donc, l'écosystème ne va plus nous emmerder plus longtemps, on va tout modifier parce que toute limite n'est pas autre chose que les bruits dans les systèmes. Eh bien, moi je pense que c'est très compliqué parce que ce que nous devons chercher vraiment aujourd'hui à comprendre, mais pas seulement scientifiquement, aussi artistiquement, culturellement, humainement, psychologiquement, nous devons chercher à comprendre ce qu'il y a à défendre de ces limites-là, même si les limites se déplacent, parce que autrement, cette fascination de la technoscience, absolument capturée par la grande finance, ils sont en train de mettre en danger cette singularité du vivant qu'il considère simplement du bruit. Merci de votre attention. Oh, Superman.
Oh, John. Donc bon, quand tu as parlé de cette modélisation du vivant, là, ça m'a fait penser tout de suite à toutes ces ressources génétiques, ces semences qui sont stockées dans un frigo en Norvège. Et on sait très bien que quand les semences sont stockées dans un frigo, elles meurent, elles vont pas continuer à s'adapter, et c'est dans le vivant qu'elles continuent à s'adapter. Et en fait, elles sont pas mortes pour tout le monde, enfin, elles sont mortes d'une certaine façon, mais il faut pas oublier que les grandes multinationales de ce monde, elles ont tout mis ça sur ordinateur, toutes les séquences génétiques, c'est tout sur ordinateur. Et le ressortiront un jour.
Ouais. Par rapport à ça, juste deux choses, non? Une, je pense que il faut bien comprendre ça. Moi, j'ai pas vu le film, mais je sais, comme vous tous, de quoi il s'agit. Jurassic Park, vous savez, ils sont les génomes d'un dinosaure, ils reproduisent les dinosaures. Que c'est, non, voilà, les semences gardées dans un frigo. Le problème est que d'un point de vue scientifique, aujourd'hui, personne peut nier ce que je vais vous dire là maintenant. Alors, ils peuvent dire, on arrivera à faire autrement. Mais pour le moment, la vérité, c'est qu'il n'y a aucune possibilité de manifestation d'un ensemble de gènes si les côtés épigénétiques, c'est-à-dire si les contextes ne les permettent pas. Vous comprenez? Alors, eux, ils disent, on arrivera. Mais pour le moment, le stade actuel de la recherche scientifique ne fait pas autre chose qu'affirmer qu'il ne suffit absolument pas d'avoir des génomes pour redévelopper des espèces. parce qu'effectivement, il y a ce qu'en biologie, on appelle la troisième hélice, vous voyez, il y a la double hélice de l'ADN, et la troisième hélice, c'est quoi? Bah, c'est l'hélice épigénétique, le contexte. Mais vous voyez, ce type de conneries sont des conneries que, par exemple, quand on voit l'attitude des chercheurs techniciens en génie génétique de Monsanto, par exemple, ils agissent comme si, effectivement, la stupidité de Jurassic Park serait possible. C'est pour ça qu'ils dépensent des millions de dollars pour garder, voyez, des génomes, voyez, qui sont modélisés, ça ne veut rien dire, mais que, même s'ils sont en tant que plantes, bah, il faut l'écosystème, vous comprenez? Il faut l'écosystème. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que quand j'ai sorti mon bouquin en montrant cette modification physiologique et anatomique du cerveau, j'ai pensé que les mondes des chers collègues, comme on dit, pour cacher qu'on n'est pas du tout cher entre nous, et j'ai pensé qu'il allait me tomber dessus. Et qu'est-ce qu'il était la réaction? C'était pire. Ils m'ont dit, mais t'as raison, absolument. Le cerveau sera simplifié, il y aura une délégation des fonctions vers des machines, et alors? Et je vous assure que j'aurais préféré qu'ils me disent, tes études ne sont pas bonnes. Parce que ce qu'ils m'ont répondu, c'est encore plus effrayant. Vous voyez, ils m'ont dit, eh oui, eh bien oui, les machines vont s'en occuper. Vous voyez, Laurent Alexandre et d'autres délirants comme lui, quand ils parlent de la machine à faire l'amour, par exemple, n'est-ce pas? On a modélisé la jouissance et donc... Bon, si vous connaissez Laurent, peut-être, voilà, il a ses raisons. Mais, sincèrement, que notre culture ne puisse pas faire la différence entre les circuits qui se mettent en fonctionnement quand il y a une jouissance, un désir sexuel, et ce qu'on appelle l'amour, vous voyez, c'est-à-dire, ça mène à un modèle solipsiste, archi-individualiste, vous comprenez? Il y a derrière une philosophie et une politique archi-réactionnaire de la vie individuelle, vous voyez?
Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est absolument aberrant. La vie est dans les plis, finalement. La vie est dans les trous. La vie est... C'est ce qu'on ne sait pas. La vie est dans l'inconnu. Et je voudrais juste rappeler une notion, parce que tu as dit l'écosystème. Et moi, je voudrais rajouter le temps. Parce que ça fait quand même 3 milliards et demi d'années d'évolution, quoi. Et ça, ben, c'est long.
Tout à fait. Le problème, c'est que... Sans le dire comme ça, tu vois, la pensée dominante, même pas simplement des transhumanistes, mais la pensée dominante aujourd'hui dans la recherche, est que nous sommes au bord d'un point de connaissance dans lequel la raison humaine pourrait orienter l'évolution, tu vois. Alors, même là-dessus, tu vois, je me dis, quand on voit ce qu'a fait la raison humaine jusque maintenant, si jamais elle s'est mise à orienter l'évolution, tu vois. Mais il y a des problèmes techniques. Il y a des problèmes techniques qui sont, tu vois, pour continuer avec ce que j'ai de répondu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes techniques qui sont les problèmes de modélisation. L'idée de que je peux modéliser complètement un système, bah, il y a tellement de problèmes, tellement d'empêchements concrets, n'est-ce pas, pour faire de n'importe quel objet, et encore moins d'un organisme vivant. Il y a tellement de problèmes que on devrait pouvoir commencer à dire il y a du non modélisable. Alors, le problème, c'est que quand on dit il y a du non modélisable, ils disent, ah ouais, tu es un bioconservateur, tu penses à l'âme. Mais la vérité, c'est que même dans les mathématiques les plus dures, nous avons depuis Gödel, donc depuis un siècle, nous avons aujourd'hui, dans les mathématiques les plus dures, des arguments et des théorèmes qui nous permettent de penser que dans un système, il y a toujours en éclipse d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire appel à des mystères spirituels. Nous pouvons, d'un point de vue tout à fait scientifique, effectivement, dire il y a du non-connaissable. Mais les non-connaissables, il faut bien expliquer, c'est pas qu'il y a l'âme ou que dans les plis que tu évoques, effectivement, il y aurait un inconnu. C'est pas un inconnu parce qu'on a décidé. C'est-à-dire qu'épistémologiquement, d'un point de vue de la raison aujourd'hui, n'est-ce pas? Eh bien, rien ne permet de penser, c'est ça qui est étonnant un peu, rien ne permet de penser d'un point de vue scientifique, mathématique, épistémologique, rien ne permet de penser qu'une connaissance complète, consistante est possible. Et pourtant, tout continue dans le sens de dire, on va rendre le monde transparent, n'est-ce pas ? Dans ce désir de transparence, moi je pense qu'il y a une contrebande métaphysique archi-réactionnaire. Moi j'étais en train de discuter juste les jours de la COP 21, la fin de la COP 21, qui pour moi c'était un échec quand même, malgré les déclarations d'intention. J'ai discuté avec un transhumaniste américain. Les mecs, bon, vous savez, les transhumanistes, ils venaient avec une médaille comme ça, très grosse. Ce n'est pas parce qu'ils avaient gagné les salons de l'agriculture, non. C'est une médaille très... Parce qu'ils veulent, s'ils crèvent, il faut les mettre au congélo, vous voyez. Quand la technique ne manquera pas d'avancer, on les sort du congélo. Alors, moi, j'ai commencé par dire que si jamais mon collègue américain avait un accident... qui n'oublie pas de les congeler, mais sans les découper, non ? Parce que la technique a des limites quand même, même dans 1000 ans. Bon. Mais ces jours-là, d'échec de la COP 21, il y avait deux projets politiques, philosophiques et scientifiques divergents. Dans la COP, on pense la défense, on essaye de penser la défense de la vie comme un ensemble, vous voyez ? Le vivant, inépensable comme un champ biologique, vous voyez, d'interconnexion dans lequel il n'y a pas du vivant individuel étanche. Et ceux qui parlent d'augmentation, ceux qui disent sans rougir, vous allez vivre 1000 ans et des conneries comme ça, eh bien c'est clair, biologiquement ce n'est pas possible. Mais comme projet politique, c'est le projet d'apartheid qui commençait déjà, vous voyez. Il y en a commencé maintenant qu'il n'y en aura pas pour tous. Comme on sait qu'il n'y aura pas d'eau potable pour tous, comme on sait qu'il n'y aura pas d'air non contaminé pour tous, comme on sait qu'il n'y aura pas de la bouffe non merdique pour tous. Alors ces gens-là, ils commencent avec leur projet d'augmentation. Scientifiquement, n'est pas réalisable, mais politiquement, économiquement, oui, sera réalisable. C'est le monde qu'ils sont en train de construire, le monde dans lequel l'augmentation d'espérance de vie augmente pour une minorité et diminue pour les autres, voyez. Donc même dans ces points de vue-là, dans les projets augmentatifs, il y a une contrebande pas du tout scientifique et qui est très réactionnaire, voyez.
Oui, donc, je voudrais continuer dans ce que vous dites justement par rapport aux citoyens. En fait, pour moi, au niveau de la science, vous dites beaucoup de choses, et il y a beaucoup de recherches, même en dehors du transhumanisme, il y a des dizaines et des dizaines de recherches à travers le monde qui sont vraiment très inquiétantes. Le problème, c'est qu'on risque de se trouver démunis par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est tellement loin, on a tellement de prises. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est comment on peut favoriser la réappropriation par rapport à ça. Bon, moi, je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui, dans le contexte actuel, faire autre chose qu'un moratoire. Pourquoi ? Parce que toute recherche, aujourd'hui, elle est faite avec des fonds, des recherches du modèle capitaliste, hein, et notamment par l'armée, qui souvent va nous vendre sur des points humanitaires, hein, pour aider les personnes qui ont une douleur, qui ont ça, et qui va nous vendre derrière tout un système qui permettra après d'aller justement sur le super militaire augmenté.
Oui, bien entendu que le moratoire est la position citoyenne de base, je dirais, non ? C'est-à-dire, d'autant plus que les citoyens, ils sont suffisamment informés sur les enjeux économiques et financiers qu'il y a derrière la modélisation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être un chercheur en épistémologie ou en mathématiques pour voir qu'est-ce que c'est la macroéconomie dirigée par des modèles qui ignorent les corps réels, n'est-ce pas ? C'est-à-dire... Quand les mondes des finances décident que la Grèce doit plier, ils le décident par rapport à des modèles macroéconomiques, par rapport à des modèles digitales, n'est-ce pas, qui peuvent processer des millions et des millions et des milliards de données par seconde, n'est-ce pas? Et alors, effectivement, dans la macroéconomie, dans les grandes finances, il n'y a pas un seul bonhomme, une seule bonne femme qui décide quoi que ce soit. Parce que par rapport à Big Data, n'est-ce pas, par corrélation et Big Data, hein, ces quantités immenses, infinies de données, ben, les décisions sont données, les orientations sont données, sans que personne intervienne. Mais ils vont dans quel sens? Et c'est là où je pense qu'on peut faire autre chose qu'un moratoire. On peut faire la moratoire, mais pas seulement. Je pense quand même que ces mondes-là, les mondes des big data, les mondes de l'information dans lesquels les modèles abstraits sont plus importants que la vie, est un monde sans corps. Et la résistance passe par les corps. Nous devons montrer la différence entre les modèles et les corps. Il ne s'agit absolument pas d'être technophobe, mais il faut utiliser les machines au service des corps en présence, au service des écosystèmes. Parce que la tendance fondamentale est la virtualisation des corps, la virtualisation d'écosystèmes. Donc moi je pense qu'il faut une médecine des corps et non pas une médecine des big data, une agriculture des corps, une écologie des corps, une pédagogie des corps. Moi je pense par exemple que quand aujourd'hui on priorise, on va donner de façon prioritaire l'information par rapport à la transmission, n'est-ce pas, toute la pédagogie des compétences qu'on appelle, n'est-ce pas, dans lesquelles les mômes, ils doivent apprendre à utiliser les méthodes digitales pour s'informer. Eh bien, ça c'est une pédagogie qui affaiblit nos mômes, voyez, parce que effectivement, une pédagogie dans laquelle les murs de la classe, la présence physique, l'altérité ne comptent plus et l'élève n'est que devant son écran, eh bien, c'est une pédagogie qui, effectivement, va dans le sens de l'écrasement des corps. Voyez, par exemple, aujourd'hui, si nous ne pouvons pas voir la différence entre transmission et information dans la pédagogie, non ? Il s'avère que si nous mettons l'image un peu bête de un grand-père et son petit-fils, et le petit-fils se dit, qu'est-ce que tu peux me dire, papy, de la sexualité des oiseaux ? Vous voyez, bon. Alors, le papy, il dit deux ou trois choses, qu'est-ce qu'il pense, je ne sais pas quoi. Et voilà, c'est une situation de transmission dans laquelle l'information donnée n'est pas centrale. Vous voyez, c'est une structuration de la transmission qui permet qu'après les petits-fils se renseignent. Vous voyez, si les grands-pères et les petits-fils disent qu'à cela ne tienne Google, eh bien, justement, ce qui se passe, c'est que toute la hiérarchie structurante anthropologiquement de la transmission disparaît. Vous voyez ? Et alors, il y a juste une information. Mais aujourd'hui, voilà, les corps en présence, l'effet que le temps de la transmission, l'idée que gagner du temps, ça ne veut rien dire par rapport à la vie, eh bien, sont des lignes de résistance concrètes, vous voyez. La NASA paye des millions de dollars depuis 12 ans dans des recherches pour diminuer les temps de sommeil. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui dort ne sert à rien, vous voyez. Eh bien, cette vision du temps dans laquelle les rituels humains doivent être décollés des rythmes biologiques, eh bien, c'est là où il faut résister. Vous comprenez ? Il faut résister à tous ceux qui ignorent les rythmes biologiques, les rythmes de la culture, le temps, vous voyez ? Gagner du temps, par exemple. Gagner du temps, une machine peut gagner du temps, mais un être humain ne peut ni gagner ni perdre son temps. Il fait son parcours. Vous voyez, il fait son parcours. Quand on terrorise les jeunes en train de dire il faut que tu apprennes des choses utiles, il faut suivre des chemins royaux, il ne faut pas se perdre dans des détails, etc. On est en train de détruire psychologiquement et neurologiquement les capacités de développement de ces jeunes-là. Pourquoi ? Parce qu'un jeune ne peut ni gagner du temps ni perdre du temps. Il doit prendre son temps, vous voyez. Et alors, cette idée comme ça, dès que nous devons enseigner des choses utiles, parce que nous serons dans une guerre économique, etc., eh bien, il faut résister contre ça. Donc, la moratoire, je suis d'accord, mais il y a des choses très immédiates contre lesquelles il faut résister et saboter ce type de mécanisme, vous voyez. C'est-à-dire, dans la pédagogie, c'est ce que je vous dis, n'est-ce pas ? Défendre nos jeunes, de ce terrorisme qui les empêche de suivre leur chemin. Voyez, nous avons travaillé beaucoup avec Angélique Delray par rapport à cette pédagogie des compétences. Eh bien, moi, je peux vous assurer, d'un point de vue pédagogique et neurologique, que quand un môme trouve son chemin dans la vie, eh bien, il peut apprendre tout ce qu'il veut. Mais si nous voulons, comme une table rase, lui enseigner des compétences utiles, sans les structurer, eh bien, on l'affaiblit. c'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué à comprendre ce que je dis là. Eh bien, c'est la pédagogie nouvelle, vous comprenez ? L'homme, l'enfant, table rase, sur lequel on décolle des compétences inutiles et on colle des compétences utiles. Eh bien, on affaiblit les jeunes, on terrorise les jeunes. Et voilà, nous, nous avons... Là, c'est une résistance concrète. Non, nous ne voulons pas que nos jeunes soient performants. Si performance, ça veut dire être un loup d'école de commerce, vous voyez ? Non, nous voulons que nos mômes, ils suivent leur chemin. Parce que... Non, parce que pour qu'un peuple, une famille, des groupes humains soient capables d'affronter la vie, il faut qu'ils soient structurés. Et on est en train de déstructurer. De la même façon dans la médecine aujourd'hui, la médecine actuelle est une médecine big data. Vous voyez ? Ça veut dire quoi une médecine big data ? Ça veut dire que vous, en tant que tout vive, vous avez accès immédiatement à des bases de données immenses. Et effectivement, ce que vous pensez, votre intuition, la présence du corps du malade et votre présence des corps à vous, là, ça passe à deuxième plan, vous comprenez ? C'est-à-dire que quand vous avez des millions d'informations par rapport à quelques indications du patient, eh bien, d'une, vous n'osez plus faire un diagnostic que tout en tenant compte l'information. C'est très bien avoir cette information, mais une information que, comme dirait l'autre, vous voyez, est nécessaire mais pas suffisante. Parce que qu'est-ce qui est suffisant ? Suffisant dans la médecine est un diagnostic qui inclut une partie des paris partagés avec les patients et une partie des non-savoirs, vous voyez ? Eh bien, aujourd'hui, c'est presque impossible, cette médecine-là. Vous voyez ? C'est presque impossible parce que la banque de données prend toute la place. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que cette médecine qui se veut personnalisée, n'est-ce pas ? Eh bien, est une médecine dans laquelle la personne disparaît et il reste un profil. Vous voyez ? Il y a la production de chacun de nous en tant qu'un profil des comportements béhaberistes, vous voyez, des comportements modélisable à l'extérieur sans aucune antériorité. Eh bien, le toubib, je ne fais pas une apologie de la médecine des papilles par rapport à la médecine. Simplement ce que j'ai dit, aujourd'hui, ne pas avoir le temps du diagnostic, la possibilité de diagnostic, eh bien, fait que les patients n'est pas là et les malades et les médecins non plus. Vous voyez ? Alors, les profilages et ça. Les profilages et la substitution de chacun de nous en tant que singularité complexe pour un profil comportemental. Alors, dans les bouquins, là, je raconte une recherche qu'on a fait à partir d'un truc très étonnant, qui est un truc qu'avait fait Google, une application, comment on appelle ça, qu'avait fait Google et qu'après Facebook a refait, qui consiste en tenant compte de votre utilisation pendant une année de votre carte de crédit, il prédit avec 85% de certitude si vous allez vous divorcer dans les 3 années qui viennent. C'est pas des mathématiques de la probabiliste, hein, c'est-à-dire probabiliste, ça veut dire, je peux vous dire aujourd'hui, d'ici à 6 mois, il y aura 2 avions qui auront un accident. Mais je ne dis pas quel avion, vous comprenez ? Non, là je dis, je regarde Jean-Pierre, comme il a utilisé sa carte de crédit, donc un comportement extérieur sans aucune antériorité, vous voyez ? Et je peux définir quelque chose de si intime comme s'il va divorcer ou pas. Alors, ça nous a beaucoup interrogés parce que les mathématiques utilisées sont des mathématiques du grand nombre, vous voyez, grand nombre d'informations, c'est tout. Eh bien, donc par corrélation, vous voyez, par corrélation. Eh bien, une des explications là-dessus, quand même, et pas la plus narcissisante pour nous, c'est que des populations très disloquées, des populations très appauvries par leur utilisation permanente de la machine digitale, etc., etc., par des pratiques donc des délégations, sont des populations qui deviennent de plus en plus prédictibles. Vous comprenez ? C'est-à-dire qu'on devient prédictible. Ce n'est pas que la corrélation qu'avait fait Google était d'une magie mathématique. Non, c'est qu'on devient tellement con et simplifié qu'on devient prédictible, vous voyez ? Si vous faites la même étude à La Paz, en Bolivie, 90% d'Indiens, tous avec des cartes de crédit, eh bien, ça ne donne rien. Pourquoi ? Parce que la structuration complexe encore existante fait que cette corrélation, vous pouvez la faire simplement dans des populations supérieures comme la nôtre, qui en est devenue prédictible.
Oh, Superman. Oh, Jama.
Alors, moi, ce que je voulais partager, en fait, effectivement, c'est quelles limites on se donne et surtout quand. Parce que effectivement, vous parliez d'une modélisation humaine qui, de toute façon, ne viendra pas dans l'état de la recherche actuelle. Mais moi, ce que je vois aujourd'hui, ce que je vis professionnellement, c'est une modélisation de la société, c'est-à-dire de la relation humaine. Donc, on numérise et on modélise les services publics, par exemple. Donc là, tout un tas de services publics, Pôle emploi, la CAF, toute la protection sociale aujourd'hui est peu à peu remplacée par des logarithmes, ce qui a pour effet, en fait, de faire perdre l'accès aux droits, donc aux usagers, et de supprimer les interfaces humaines. Il ne s'agit pas de défendre un service public pour le défendre en tant que tel, c'est surtout l'accès aux droits et à quelle société on veut. Il est là l'enjeu aussi. Si on attend pour résister, donc si on a des cerveaux de plus en plus simplifiés, on va aussi anéantir notre capacité de résistance. Et donc c'est aujourd'hui qu'il faut agir. Je vois aussi qu'on n'a pas que le cerveau qui va être simplifié, c'est qu'aussi on va être asservi. Moi, il y a quelque chose qui m'a choquée dans l'actualité, qui est passé complètement inaperçu. C'est les huit salariés en Belgique qui se sont fait implanter donc une puce au poignet pour badger au travail. Et là, c'est que non seulement on est asservi par le travail, mais aussi par la machine travail. Donc ça veut dire que les technosciences sont maintenant intrusives. Elles ne sont pas uniquement à l'extérieur, c'est qu'elles rentrent dans nos corps par le travail. Et ça, pour moi, c'est une question très, très inquiétante. Et ce n'est pas la société que je veux, c'est maintenant qu'il faut agir. Et enfin, le big data qui se constitue a besoin de données. Et moi, je fais le lien avec le Linky. Donc là aussi, c'est une lutte concrète dans ma commune. Donc on a lancé un collectif anti-Linky. Parce que ce sont des machines, donc par le biais en fait, hein, de soi-disant de la transition énergétique, qui vont arriver chez nous, donc de manière donc intrusive dans nos vies, pour modéliser nos habitudes quotidiennes, à quelle heure on bouffe, à quelle heure on se couche, enfin tout ça avec une vie assistée. Et on va vraiment perdre, et on est en train de le perdre, notre pouvoir d'agir et notre libre arbitre. Et l'humain, c'est ça, c'est pouvoir décider quand on veut, quand on se lève, quand on se couche, et ce qu'on veut faire de la vie.
Alors, tu as tout à fait raison, mais il y a un problème énorme par rapport à ça. Le problème énorme, c'est que, tu vois, moi, j'ai connu la moitié de ma vie, j'ai vécu sous une dictature et la autre moitié en démocratie, non ? Sous la dictature, il y avait quand même un gros avantage, c'est-à-dire que les militaires portaient un uniforme, donc ça facilitait pour savoir contre qui il fallait tirer, tu vois. Et dans ton entourage, il n'y avait aucun fasciste, jamais, aucun militaire, tu vois. Les choses étaient pas faciles, mais simples, tu vois. Il y a une différence entre simple et facile. Simple, ça veut dire que c'était absolument évident pour n'importe quelle personne en Argentine, à l'époque des dictatures, en Bolivie, au Chili, etc. C'était tout à fait simple, l'analyse, tu vois. C'est-à-dire, c'était clair de quel côté tu allais si tu ne voulais pas être une merde de canailles ou un collabo. Donc, c'était clair. Aujourd'hui, la vie est très facile, mais ce n'est pas simple de comprendre. C'est que l'ennemi, maintenant, n'est plus en face. L'ennemi est dans nous, dans nos têtes. C'est-à-dire que le problème, c'est que cet confort plastique, cette délégation des responsabilités, des fonctions, est désiré par nos contemporains, est désiré, est désirable. Donc, la résistance doit passer par des pratiques plus puissantes, plus joyeuses, plus désirables, tu vois. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut faire les deux. Je pense, comme toujours, qu'il faut faire du sabotage, bien entendu, mais ça ne suffit pas. Je pense quand même que la chose principale, c'est de chacun de nous déployer des pratiques qui soient plus puissantes, plus joyeuses, plus protectrices de la vie, plus désirables que les mondes de la délégation de notre responsabilité. Vous voyez ? Parce que je ne peux pas moralement m'opposer, par exemple, à la médecine Big Data. Je dois montrer dans des pratiques la puissance majeure de la médecine non Big Data. Vous comprenez ? Je ne peux pas m'opposer moralement à la pédagogie des compétences. Je dois montrer comment c'est plus joyeux, puissant, plus structurant pour les mômes, une pédagogie non des compétences. Ou par exemple, par rapport aux mômes, je ne peux pas m'opposer moralement et dire « ne montrez pas d'écran aux mômes ». Je dois développer des pratiques, des quartiers, d'immeubles, voyez, dans lesquels on peut occuper les mômes autrement et qu'ils soient plus joyeux et plus désirables. Je vous assure, les familles que moi je connais personnellement, dans lesquelles les enfants n'ont pas été hypnotisés par les écrans, eh bien, ce sont des familles dans lesquelles il n'y a pas une tristesse, ou comme ils disent les cons, et s'allument à la bougie, vous voyez. C'est-à-dire, ce sont des familles dans lesquelles, au contraire, il y a une inventivité, un lien, une présence qui est plus désirable que la famille décérébrée, devenue automate, vous comprenez. Donc, la résistance aujourd'hui passe par des pratiques concrètes. La résistance doit venir de tout le monde. Et tout le monde est qualifié pour, parce qu'il ne faut aucune qualification pour, de montrer que la vie avec des corps en présence, la vie qui prend son temps, est plus désirable, vous comprenez ? Il s'agit de ça. Il s'agit de disputer les côtés désirables de ce monde merdique. Et ça, c'est compliqué.
Oh, Superman. Oh, Mom and Dad. Mom and Dad. Oh, Superman. Oh, Mom and Dad. Mom and Dad.
Hi. I'm not home right now, but if you want to leave a message, just start talking at the sound of the tone. Coming home. Hello? Is anybody home? Well, you don't know me, but I know you.